La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à La quotidienne, mon nom est Michel Cloutier. Je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, comme à l'habitude. Bonjour, Izzy.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on est avec Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole. Bonjour, Yannick.
Bonjour, Michel. Bonjour, Izzy.
Michel Saint-Pierre de l'Institut qui est là également aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, Michel. Et bonjour, Izzy. Bonjour, Yannick.
Ça fait voilà. Beaucoup de bonjour.
On fait. Ben oui, ben voilà. Une belle équipe, en tout cas.
Effectivement. Aujourd'hui, on va parler du blé.
Oui, on va parler du blé. On en a parlé à quelques reprises, oui. Du blé, mais en fait, on va en parler sous un angle un peu différent parce que on s'est toujours rattaché à l'activité que les céréaliers du Québec ont réalisée le 18 août dernier à Saint-Py sur la ferme d'Arox. Mais là, on va aller écouter, en fait, non pas les fameuses vedettes américaines, mais on va aller écouter un Français qui était invité par Dany Messier pour expliquer comment se comporte la filière blé en France, comment on fait du blé humain, du blé panifiable en fait en France. Et dans le contexte, en fait, Mathieu Baudet, c'est quelqu'un que j'avais rencontré le printemps dernier avec Christian quand on a fait notre mission pour mieux comprendre comment on faisait les farines de blé en France. On avait rencontré les moulins, etc. Et Mathieu Bacoté faisait partie des contacts qu'on avait en France. On l'a trouvé fort intéressant. Puis on a dit ça à Dany, et Dany a dit, bon, ben regarde, on fait venir, et il va justement parler aux producteurs québécois, donc on va pouvoir écouter son bilan de son voyage ici, qui a duré très peu de temps, je pense que c'est 4 jours, et il fait un peu l'observation du Québec.
En fait. On rappelle son nom, c'est
Mathieu Baudet.
Mathieu Baudet.
Bonjour, on est content de te retrouver, on s'est rencontrés dans une mission que les céréaliers du Québec nous avaient demandé d'organiser pour aller rencontrer la filière blé en France. Ça s'est passé au printemps dernier, on est allé en Auvergne, dans le Cantal, te rencontrer avec d'autres intervenants. Et aujourd'hui, tu es là. Dany a organisé une grande journée, 250 producteurs à la ferme qui sont venus écouter des vedettes américaines, venus nous parler de leur culture de maïs, mais aussi venus écouter un spécialiste en fait, de la filière du blé. Justement, peux-tu nous parler un petit peu de ta filière blé en France? Moi, ce que j'ai retenu dans le passage avec Dany en France, c'est que tu étais un peu celui qui garantissait un peu le juste prix aux producteurs. Vous avez une méthode en France qui fait que, on dirait que tout le monde y trouve un petit peu son compte.
C'est l'objectif, en effet, c'est l'objectif, c'est que chaque on va dire, acteur de la filière récupère des bénéfices, récupère de la marge. C'est important pour que la filière soit viable, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc on essaye de construire des filières qui vont de l'agriculteur au moulin, jusqu'au boulanger, des filières locales autant que possible, durables, et des filières qui sont construites conjointement pour respecter les critères de rendement qui permettent la rentabilité, les critères de qualité qui permettent derrière aux beignets et aux boulangers de faire des bons pains. Donc on travaille en amont hein, sur le choix des variétés, qui est quelque chose de très très important chez nous. Qui permet de performer, qui permet de limiter les intrants, parce qu'on va travailler sur des variétés plutôt tolérantes aux maladies, plutôt tolérantes à l'averse, des choses comme ça, qui nous évitent de trop mettre de produits phyto. C'est dans l'air du temps, c'est une demande sociétale, donc on essaie de s'en approcher au maximum, sans dégrafer le niveau de rendement, sans dégrafer la rentabilité à l'agriculteur. Aujourd'hui, c'est des filières qui sont construites généralement sur plusieurs années avec plutôt un climat de confiance entre les différents acteurs.
Et justement, tu parles de ne pas dégrafer, parce que l'agriculture durable, c'est quelque chose d'un message important qui circule actuellement parmi les producteurs, parmi les consommateurs assurément, parmi les producteurs aussi. Et c'est de s'assurer en fait de continuer de produire en quantité. Mais en respectant l'environnement, je pense que c'est le message qu'on a compris pas mal aujourd'hui. Je dirais aussi que Bonaventure Vinet, qui est un des administrateurs des céréaliers, qui était avec nous au mois de mars, a spécifié en fait, à son retour, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit « En France, le mouvement du blé se porte très bien, on est venu voir si on peut importer leur façon de faire vers le Québec. » Et tout à l'heure, tu as parlé des variétés. Alors, est-ce que justement, on entend souvent dire ici au Québec qu'il manque peut-être de variétés génétiques. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu constates une différence entre ce qu'on vit ici au Québec et ce que vous vivez en France dans les échanges que tu as mis avec les producteurs?
Oui, en effet, c'est assez flagrant. C'est assez flagrant, il y a une différence assez importante là-dessus. Nous, on a un flux variétal, un flux de recherche qui est relativement important, qui est porté par plusieurs obtenteurs, plusieurs semenciers. Donc ce flux de recherche nous permet d'avoir accès à des nouvelles variétés qui donnent des critères ou de rendement ou de qualité. Alors ces dernières années, on a un petit peu laissé le rendement de côté, on va plutôt chercher des résistances maladies, des choses comme ça. et on nos variétés sont très analysées, très structurées pour faire le bon choix et faire le bon choix de l'agriculteur. Et quand j'ai discuté comment ça se passait ici, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu plus marginal. Il y a moins d'intervenants, il y a moins de variétés, il y a moins de choix. Les variétés sont peut-être un petit peu moins poussées dans l'analyse, donc elles ne permettent pas forcément à l'agriculteur de savoir ce qu'il sème, pourquoi il le sème et quelles sont les solutions que la variété va lui apporter. Et je pense que le plus gros progrès qu'a à faire le Québec est vraiment sur cette dynamique génétique, d'amener de la nouveauté, d'amener des variétés performantes qui permettent au blé de devenir une culture rentable au milieu des autres cultures au Québec.
Le Québec doit effectivement travailler sa génétique, mais il se travaille aussi des projets actuellement autour de labels. Alors, je sais qu'en France, on a rencontré aussi, dans certains moulins, d'abord je pense à Pierre Barthélémy, à Murat, qui nous a parlé de labels. Bon, lui, il avait un avis sur les labels. Il disait aussi, bon, le label, il fallait faire attention de ne pas avoir des labels trop rigides non plus, parce qu'il avait vécu l'époque des labels. Il faut que le label soit souple. Ça, c'est quelque chose que je pense que Dany Mécher a bien entendu. Actuellement, au Québec, bon, il y a le blé raisonné, qui est un label privé, qui est propriété des moulins de Soulanges. On sait qu'il y a des gens comme Rudy Lexé qui travaillent sur des labels qui sont un peu les copies de la génétique en France. Les céréales du Québec sont plutôt dans l'esprit d'avoir un label éco-responsable. Ils ont d'ailleurs, en collaboration avec l'Institut Jean Garon, commencé à travailler un projet qu'ils ont déposé au ministère pour essayer de faire reconnaître un label éco-responsable. Ils sont une sorte de label évolutif. Quelle est la lecture que tu fais des labels, toi, qui les as vécu en France?
Alors les labels, oui, en effet, c'est très important. Ça permet quand même, à un moment donné, de mettre des mots en face d'action, de mettre une qualité de blé sur le papier. Et que le consommateur, s'il retrouve la difficulté, c'est qu'il faut pas avoir une multitude de labels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop de labels va perdre le consommateur. Donc il faut avoir des labels qui soient lisibles, qui ne soient pas trop restrictifs. Parce que s'ils sont trop restrictifs, c'est plus possible pour l'agriculteur à un moment donné. Si les contraintes deviennent plus fortes que le gain, la personne y va. Donc il faut que les labels soient raisonnables, qu'ils répondent aux demandes du consommateur, tout en préservant la production de l'agriculteur. Donc ça se construit. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs reste aussi le carbone. Donc la production locale, la consommation locale est un enjeu majeur pour moi, qui fait partie du label. La durabilité de la production de la culture fait partie du label. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va faire des choix de variétés, entre autres, je reviens un peu là-dessus, mais les choix de variétés qui nous permettent d'éviter des fongicides, d'éviter de mettre trop d'azote, d'éviter d'avoir des problèmes de verse ou de régulateurs, ben ça rentre dans ces labels-là. C'est-à-dire que c'est des variétés, entre guillemets, éco-responsables, si on peut le dire, qui permettent d'utiliser un peu moins d'intrants, un peu moins de produits phyto. Et tout ça, ça peut se formaliser sur un label avec des cahiers des charges qui sont sans difficulté.
Effectivement, dans la balance, on a que la rotation de la terre peut faire partie d'une réflexion du label. Pour terminer, peut-être aussi, peut-être nous parler un peu du bio, parce qu'en fait, bon, ici, le bio, c'est quand même un trademark, on va dire, qui est très, très reconnu, comme partout dans le monde. Mais on s'est fait dire, nous, encore en France, en discutant avec certains intervenants, qu'on oubliait des fois que le bio avait des coûts, que le bio entraînait aussi parfois des maladies, que le bio demandait de travailler la terre beaucoup plus, donc beaucoup plus de machinerie. Ce discours un peu négatif autour du bio, il est souvent caché en fait pour que les produits bio gardent leur pureté. Et est-ce que justement dans le travail qui va se faire au niveau des labels au Québec, il doit y avoir cette réflexion que justement on veut des produits, on veut de la production, mais proprement, et est-ce qu'on va se retrouver en fait dans une situation de compétition avec le bio?
Pour moi, non, on n'est pas forcément sur les mêmes marchés. Après, attention, le bio ne veut pas forcément dire propre. Hein. On peut être en bio et puis mal travailler et puis avoir des façons culturales peu vertueuses. Et on a des producteurs bio qui sont très très bons et qui font très bien les choses. Donc attention, tout ne peut pas se mettre des fois sur l'étiquette bio comme c'est fait aujourd'hui. Et c'est juste ce que tu dis, c'est que la communication sur le bio est souvent biaisée parce qu'on ne veut pas forcément faire paraître toute la vérité aux consommateurs. Pour moi, on n'est pas sur le même marché. Le marché du bio aujourd'hui, il a son consommateur, il a des gens qui sont favorables au bio. Il faut qu'il paye le produit à sa juste valeur parce que sinon le producteur bio ne peut pas s'en sortir. Les productions bio coûtent quand même beaucoup plus cher, les contraintes sont plus importantes. Donc il faut que le consommateur paye plus cher. Donc c'est vraiment le très haut de gamme, je ne sais pas, mais en tout cas financièrement, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, le producteur bio ne peut pas vivre. Donc ça, c'est très important. Quand on est sur des labels durables, pour moi, on va travailler dans une méthode conventionnelle, mais raisonnée. Donc on va raisonner au mieux pour limiter l'impact au maximum. Donc on va être sur quelque chose de vertueux, mais qui n'est pas bien. Donc on va rester sur des coûts de production raisonnables. On n'a pas besoin de monter aussi cher que le prix du bio, et c'est beaucoup plus accessible à l'ensemble des foyers. Production bio peut avoir cette contrainte aujourd'hui de ne pas, rentrer dans tous les budgets de ménage. Du coup, il faut aussi proposer autre chose très qualitatif, mais qui permette à tout à chacun d'acheter le produit.
Et pour terminer, tu viens d'arriver au Québec mercredi dernier, tu repars dimanche, c'est comme un petit saut de puce sur l'Atlantique, comme ça, quelques jours. Au-delà de la météo changeante, un coup soleil, un coup plus torrentiel, qu'est-ce qui t'a marqué du Québec?
J'avoue que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup le tour du Québec pour l'instant. On est assez pris, mais c'est très joli, c'est très verdoyant par rapport à chez nous. Alors, la pluie arrange pas tout le monde, mais en tout cas, laisse des paysages verts. Les gens sont très accueillants, très agréables, donc c'est sympathique. C'est grand. Et par rapport à la France, tout est plus grand, on va dire. Les champs sont plus grands, les voitures sont plus grandes. Voilà, c'est un petit peu l'image qu'on peut se faire du Canada, du Québec, des États-Unis. Tout est un peu plus dimensionné. Pour l'instant, tout va bien. J'ai hâte de découvrir un peu plus Montréal en fin de semaine, l'architecture québécoise, pour parfaire mon voyage. Voilà.
Merci beaucoup. Et bonne fin de semaine.
Alors voilà, on fait une pause. On vient dans un instant à La Quotidienne. Écoutez la saison 2 de La Vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Poissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Alors, nous voilà de retour à cette quotidienne et on est dans la culture du blé. On attendait avant la pause un peu le parallèle, si on veut, entre ce qui se fait au Québec et ce qui se fait en France et les différences. Et on en retient quoi, monsieur?
Ben, on va demander à Michel, parce que moi, j'ai une petite idée un petit peu déjà de pour avoir rencontré Mathieu Baudet en France, et ici, j'ai commencé à converser pas mal avec lui. On remarquera qu'il y avait des gros pick-up, ça, on peut le confirmer. On était tous dans la cour de chez Danny, et du pick-up, il y en avait en masse.
Ce qui les impressionne aussi, c'est les trocs, qu'ils appellent.
Oui.
Les trocs, parce que nos camions sur la route, les grands routiers, là, sont beaucoup plus grands qu'en France. Alors c'est une des choses qu'ils remarquent à chaque fois.
C'est clair, moi j'ai des amis français, quand ils viennent, quand je suis sur l'autoroute eux, ils sont capables.
On parle bien, le 53 pieds.
Ils sont capables de me faire arrêter sur la route juste pour faire une photo du troc.
Ah oui, ils sont complètement impressionnés.
Ah ouais?
Complètement impressionnés par ça. Mais pour revenir au blé,
sur la génétique, entre c'est intéressant ce qu'il dit sur la génétique.
Mais l'ensemble de la filière blé, pour moi, l'idée de réintroduire du blé, pour moi, c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse, parce que je vois que c'est une voie importante vers la diversification. Alors, et cette voie-là, on est au seuil un peu de la bordée. On commence à repenser à ça. Il y a 3-4 ans, on ne parlait pas de ça, le blé, mais tout à coup, on commence à penser au blé comme étant, d'abord, pour moi, il y a 3 bonnes raisons. D'abord, il y a la rotation des cultures, là, c'est l'introduction du blé dans un système pour lequel on a généralement pas plus que deux cultures, là, surtout maïs, soya. D'autre part, c'est une diversification au niveau régional, parce que là, on peut étendre le territoire. Et troisième, c'est l'autonomie alimentaire pour laquelle on est drôlement dépendant en ce qui concerne le blé. Les gens ne savent pas, mais à peu près 90% du blé qui sert à faire de la boulangerie, du pain et tout, ben, ce blé-là est importé. Il n'est pas importé de Chine, il est importé de l'Ouest canadien.
Est-ce que la rotation des terres, justement, ça mène à l'autonomie, justement? Ou qu'est-ce que ça apporte, la rotation des terres? Parce que là, honnêtement, en ce moment, pour moi...
La rotation des terres, ça amène d'abord, avant tout, la santé des sols et la pérennité des sols. Il y a de l'épuisement de sol quand on fait les mêmes choses. Il y a un épuisement au niveau des ressources sols, si on veut, là, de ce qu'on y trouve, les matières organiques, entre autres. Il y a des compactages de sol qui font en sorte qu'avec le temps, notre sol devient plus...
Il est de moins bonne qualité.
Il est de moins bonne qualité. Et évidemment, on ne peut pas espérer des rendements à très long terme si on continue de faire la même chose tout le temps. Un dernier point, c'est que ça amène aussi, ça installe... Par exemple, des fléaux de culture qui vont s'installer là parce que, je trouve bien, ils retrouvent à chaque année
les mêmes
productions. Ouais. Donc, on voit la même microflore, la vie microbienne, si on veut.
C'est la même d'année en année.
Qui est indésirable dans certaines parties, puis qui t'oblige, là, à ce moment-là, à avoir des moyens de défense de plus en plus agressifs. Alors, en gros, là.
Moi, j'ai déjà assisté à des démonstrations par des agronomes qui font des coups de pelle dans la terre. Là, ils font très des fois, en fait, en disant voici un mauvais sol dans tel champ, puis un bon sol dans tel champ. Dans le bon sol, il y a du ver de terre partout.
Il y a des vers de terre partout.
Là. C'est ça, un bon sol. C'est qu'il y a de la vie dans le sol.
Ouais. Mm-hmm.
Puis un mauvais sol, mais on en a souvent dans notre cours, là, c'est des sols qui sont compactés, pour lesquels on a fait n'importe quoi, sauf cultiver quelque chose, des racines, bien sûr, parce que ces racines...
Non, on a une belle pelouse verte, par contre.
Oui, les racines, c'est pas très profond, ça, à part de ceux des arbres, bien sûr, là, mais c'est ça. Mais alors, puis là, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est beaucoup plus des variétés adaptées.
Ben, c'est ça. Moi, il y a deux choses qui me marquent quand Mathieu Buck nous dit. D'abord, en France, on fait attention au juste prix parce que lui, il est un peu au milieu de tout ça parce qu'en fait, il est à la fois producteur, mais il est aussi négociant pour des producteurs. Donc, il est au milieu de ce monde de producteurs, de la farine, des acheteurs de farine. Et en fait, effectivement, ils ont un fonctionnement qu'ils essayent de faire en sorte que tout le monde a une bonne marge pour que le système fonctionne. Au Québec, j'ai cru comprendre que son analyse était que je suis pas sûr que tout le monde ait une bonne marge non plus. Donc, ça ramène à l'idée un peu monopolistique, là, comme le Québec aime bien faire les choses. Puis en plus, c'est que dans la génétique, il nous dit la même chose. Ouais. C'est qu'il nous dit au Québec, il n'y a pas de variété. Donc, pas de variété. Moi, j'entends, est-ce qu'il y a un monopole de génétique au Québec aussi?
Non, je pense qu'on a abandonné, simplement. Il y a eu des recherches qui sont faites. Il y a eu des développements de variétés, je dirais, jusqu'à les années... peut-être les années 70-80, mais le maïs a comment porté tout ça, là. Et puis le blé est plus devenu quelque chose d'intéressant. Donc,
résultat... Et pourquoi il n'était plus intéressant? Qu'est-ce qui a fait que...
Parce que l'argent était dans le maïs grain.
Ah, l'argent!
On en revient, je pense, pour expliquer ça, en fait, à Izzy, là, je pense qu'on en revient quoi, au système des assurances.
Bien oui, bien sûr. Donc, on a assuré une production qui est devenue extrêmement lucrative et pour laquelle l'objectif, c'était, année après année, d'en faire ça. On a introduit le soya vers les années 88-89, heureusement, parce qu'on commençait à vraiment vivre des problèmes de fertilité des sols et de compactage. On parlait de ça beaucoup fin des années 80.
Mais il n'y a pas eu, à un moment donné, une réflexion à se dire il va y avoir une fin à tout ça, puis il faut penser à l'avenir, puis justement, comme vous le mentionnez, se diversifier.
C'est un peu notre message qu'on fait depuis ce temps-là. On dit, bon... supportons aussi une production qui, à terme, peut devenir aussi intéressante, mais qui va avoir à passer par une période de transition. Si on se rappelle, ceux qui ont commencé à faire du maïs grain des années début 70, les variétés là, qu'il y avait, ils n'étaient pas adaptés ici. Là. Il y avait donc des rendements qui étaient extrêmement aléatoires. Souvent, on forçait un peu sur le rendement, puis évidemment, on manquait tout parce que la neige arrivait et le gros froid arrivait. Donc, ça a pris du temps. Mais il y avait un support gouvernemental qui faisait en sorte que, les mauvaises années n'étaient jamais à fait mauvaises et on continuait l'année suivante. Puis on
une espèce de béquille, finalement.
Bien sûr. Là, il faudrait ramener ça, au moins pour une période de transition. Là. Ce qu'on dit des fois, ce qu'on dénonce beaucoup, c'est que dans le cas du maïs, ça a duré 40 ans, la période de transition. Là. C'est un peu long, ça. Hein?
Oui.
Alors, mais on espérait qu'une période de 5 ans, par exemple, avec un programme adapté pour réintroduire le maïs, pas le maïs, le blé, oui, excusez-moi.
non, c'est correct, le maïs.
Dans des régions aussi, partout, mais en particulier aussi dans des régions qui actuellement sont à la recherche un peu d'une nouvelle vocation. Et ça, je pense que tout le monde y gagnerait. D'abord, comme consommateur, on aurait des blés, on aurait des farines venant de nos champs actuellement. Il y en a un peu, mais...
C'est surtout l'Ouest canadien.
C'est surtout l'Ouest canadien. Donc, une démarche...
Je pense que c'est le rapport des producteurs de grains. Je retrouve la trace du rapport. Mais la dernière fois qu'on a regardé les chiffres, c'était déclaré comme étant les farines de Québec sont composées à 80% de blé provenant de l'Ouest canadien.
Bon.
Donc, on en déduit de 20%
ouais, c'est ça.
Du blé du Québec.
Je regardais d'autres chiffres.
C'est pas très bon en maths, mais, ouais, mais quand, bah, même.
Quand même.
On était, en tout cas, les d'autres chiffres étaient plus près de 90%, mais en tout cas, mettons qu'on est... c'est très minoritaire.
On se dit 85.
Mettons qu'on s'entend pour 85. Savoir, c'est le chiffre qu'on va utiliser. Donc, 85% de nos farines viennent de blé de l'Ouest canadien. Il y a une démarche à faire. Et c'est ça pour lequel, je pense, l'intérêt qu'on a actuellement, c'est... En ce qui concerne le label, ça peut être un peu une locomotive. Ça peut amener les gens à dire « Ah, c'est intéressant, là, on vient de l'identifier un peu plus », ce qui crée une demande. Le label va amener une demande plus spécifique. Les gens vont pouvoir dire « Ah, ça, c'est-tu fait avec du blé du Québec ?» Si 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, ce n'est pas le cas, ils vont dire « Qu'est-ce qu'on attend ?» Alors, on est là, actuellement.
Oui, de trouver une façon de créer un intérêt chez le consommateur qui va créer un intérêt chez le producteur et ainsi de suite.
Il faut que le message vienne des deux côtés, dans le fond. S'il vient du monde agricole pour dire, donnez-nous une chance. Et des consommateurs, ça, c'est encore plus fort parce qu'il y a beaucoup plus de consommateurs que d'agriculteurs. Puis la politique écoute beaucoup plus les consommateurs que les agriculteurs.
Non, effectivement.
Mais là, ce qui peut aider dans toute la chaîne, là, c'est que les producteurs, on a compris que par les céréaliers du Québec, il y a cette volonté. Là. L'Institut Jean Garon fait partie, je pense, de la mécanique aujourd'hui de la pédagogie autour de ça. Puis, de plus en plus, on l'a vu avec Première Moisson au courant de l'été, Première Moisson s'intéresse de près à ça. Première Moisson aimerait ça, avoir des farines faites de blé du Québec. Puis, je pense qu'il y a d'autres compagnies qui commencent à lever la main pour dire, nous aussi, on veut des farines faites
de blé. Il y a un certain nombre de leurs produits qui sont spécifiques et qui utilisent la farine du Québec.
Est-ce qu'on peut dire s'en va vers des balbutiements de quelque chose qui pourrait devenir...
Oui. En fait, la farine du Québec, assurément, parce que très clairement, quand les moulins de Soulanges font de la farine au Québec, c'est de la farine du Québec. Le problème, c'est quand on monte derrière, on remonte la chaîne pour voir c'est quoi le blé qu'a fait la farine du Québec, c'est là qu'on découvre que le blé, il est à 85%
c'est ça.
Alors voilà, il y a l'appellation contrôlée là, qui mérite d'être un petit peu regardée.
exactement. Mais c'est pas fini, on va y revenir.
Exactement, et je pense que on est de plus en plus conscient qu'on doit diversifier les cultures au Québec. Là. Beaucoup de gens en parlent. Il y a des situations... qui amène aussi indéniablement la réflexion là, dans cette direction-là. On va voir jusqu'où tout ça va pouvoir nous mener. Ben, merci beaucoup pour cette quotidienne.
Merci, Pierre.
Merci à tous.
À bientôt.
À bientôt.